Le préfixe « un », « yen », qu'on trouve dans l'inconscient par exemple, dit en français deux choses. Il dit à la fois la négation, ce qui est inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient, mais il dit aussi l'opposition, ce qui est inconscient, c'est ce qui s'oppose à l'inconscience. L'intolérance, c'est ce qui n'est pas de l'ordre de la tolérance, mais c'est aussi ce qui lutte contre l'idée même de tolérance. Quelqu'un qui est intolérant, à la fois il n'est pas, et en même temps il est contre. Eh bien, le sens commun va qualifier ainsi d'inconscient souvent un type de comportement irréfléchi, voire franchement imprudent, et l'inconscience va, dans cette perspective, aller vers une certaine forme d'irresponsabilité, de coupable légèreté qui caractériserait par exemple les actions menées à l'emporte-pièce sans une juste évaluation des risques encourus. Le contraire du mot inconscient, c'est alors raisonnable. L'inconscient s'oppose au raisonnable. Avec Freud et la psychanalyse, l'opposition va changer de forme. Et d'une certaine manière, elle va en quelque sorte être décloisonnée, car ce n'est plus la raison, mais la conscience qui va entretenir désormais des rapports avec l'inconscient. Des pensées ou des représentations inconscientes ont pour caractéristique, en effet, d'être en sommeil, c'est-à-dire non activées, absentes de la scène consciente, précisément. Le souvenir en est un exemple parfait. Il existe sans pour autant se manifester continuellement dans une sorte de latence inconsciente. Une situation concrète, une association d'idées ou une certaine pensée peut le mobiliser à nouveau, le faire réaffleurer à la conscience. Sauf que cette approche est assez limitée. L'inconscient, en fait, ne serait ici que la remise de la conscience, une sorte d'antichambre en relation de stricte dépendance, sorte de réservoir où, au fond, la conscience viendrait chercher une matière implicite, certes, mais au fond toujours disponible. Là encore, Freud marque un tournant. L'inconscient chez Freud, et à ce moment-là, le mot devient vraiment un substantif, hein, de l'adjectif inconscient, on passe au substantif l'inconscient. L'inconscient chez Freud va désigner une partie de nous-mêmes, ou plus exactement une zone de notre psyché, de notre esprit, où sont certes stockés des souvenirs, des fantasmes, mais aussi des désirs inavouables que précisément nous ne pouvons pas atteindre, et qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas à disposition, car une résistance en nous s'oppose à ce que nous y ayons accès. L'inconscient est donc une sorte de, non pas d'antichambre, mais plutôt de cave, hein, si on poursuit la métaphore effectivement de la demeure. C'est une cave où nous plaçons, où nous cherchons même à oublier, une cave, une oubliette, une prison, un cachot, où nous plaçons tout ce qui va heurter notre conscience. C'est au fond le lieu où l'on place en dépôt tout ce qui a été refoulé. Car le refoulement, c'est bien la notion clé chez Freud. C'est lui qui va effectivement permettre de comprendre par son travail comment, en effet, sont exclus de la sphère consciente un certain nombre de représentations. Dès lors, on peut imaginer trois types d'instances qui constituent le psychisme. Il y a le « ça », ce que Freud appelle le « ça », qui englobe l'ensemble des pulsions, justement, des pulsions inavouables, des pulsions, effectivement, que le sujet ne veut absolument pas se représenter. Il y a le « surmoi ». Le « surmoi », c'est le représentant de l'exigence morale, des éducateurs. Ce sont les principes qui permettent, justement, de refouler, au fond, opère le refoulement des pulsions inavouables. Et puis, il y a le moi, qui est une sorte de médiateur qui s'efforce de concilier à la fois les impulsions du ça, les pulsions du ça, avec les interdits et les refoulements que le surmoi impose. Alors, cette théorie de Freud, qui est là schématiquement rappelée, cette théorie Freud, elle va susciter évidemment énormément de résistance. D'abord parce que la notion d'inconscient, elle remet en cause l'idée de liberté et l'idée de contrôle, justement, du sujet sur lui-même. Dire qu'il y a un inconscient dans lequel réside toute une série de pulsions, d'impulsions, de désirs, d'appétits qui sont absolument inavouables et que l'on refoule parce qu'ils seraient absolument intolérable d'en être le conscient, justement, ben, c'est tout simplement se dire, s'avouer qu'il y a un animal, une bête, un monstre qui dort en nous, et qui en plus, en effet, conditionne à notre insu nos actes que nous croyons être des actes neutres et conscients. Donc c'est vrai que la notion d'inconscient remet en cause l'idée de liberté de l'homme, et surtout l'idée de maîtrise et de volonté. Et puis aussi parce que, évidemment, là c'est l'autre pan de ces désirs. S'ils sont refoulés, c'est parce qu'ils sont chargés d'intentions sexuelles, et qu'effectivement, l'inconscient freudien fait la part belle, et non seulement la part belle, mais la part principale à la sexualité. Mais malgré ces résistances, eh bien, on peut dire aujourd'hui que nous sommes tous devenus freudiens, qui, en effet, viendrait à remettre en cause l'idée qu'il y aurait quelque chose à notre insu qui travaillerait notre psyché, notre âme, et qui s'exprime, par exemple, lorsque nous rêvons. L'expérience du rêve, parfois, c'est dérangeante, hein, cette expérience du rêve, nous l'avons tous connue, nous la connaissons tous régulièrement. L'expérience également de ce qu'on appelle les actes manqués, c'est-à-dire des petits ratés du quotidien, mais qui, justement, aussitôt qu'on y réfléchit, ne sont pas finalement si hasardeux que cela. À travers les actes manqués, à travers les lapsus, à travers les rêves, on voit bien que l'inconscient est bien là. Alors il n'a peut-être pas la structure que Freud a imaginée. De fait, la psychanalyse, ce n'est pas une science, en tout cas ce n'est pas une science exacte, mais il est clair que Freud va travailler cette idée et va contribuer considérablement à la diffuser dans notre culture occidentale moderne.